France Culture.
Bonjour le Book Club. Alors pour moi, lire Guillaume Dustan, c'est quelque chose d'excessivement réconfortant. Je l'ai découvert en 2021 et depuis, je le relis sans cesse. Il y a toujours un de ses bouquins qui traîne, soit sur ma table de chevet ou dans mon tote bag. C'est comme un talisman. C'est comme un trésor maintenant que je chéris. C'est très précieux d'avoir ça.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une fois n'est pas coutume, petit avertissement, l'œuvre de Guillaume Dustan, dont nous allons parler à l'occasion de diverses actualités éditoriales, comporte une dimension crue qui ne sied pas à toutes les oreilles, les plus jeunes par exemple. Ceci dit, c'est précisément cette dimension frontale, ajoutée à la nouveauté qu'il propose sur le plan littéraire et politique, en embrassant totalement la matière autobiopornographique, qui fait la spécificité de cette œuvre. C'est entre autres parce qu'il ne désexualise pas l'homosexualité et l'expose, je cite ici la préface de Thomas Clair, aux œuvres complètes, que Guillaume Dustan marque le champ littéraire français de la deuxième moitié du XXe siècle. Né en 1965 de son vrai nom William Baranes, magistrat, énarque puis écrivain, figure médiatique controversée, séropositif, il meurt à 39 ans en laissant derrière lui une œuvre à redécouvrir et rediscuter. Christophe Beau lui consacre un beau livre sous la forme d'une lettre d'amour posthume. Thomas Clair préface et coordonne la publication des œuvres complètes aux éditions POL. Ils sont tous les deux nos invités. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Christophe Beau.
Bonjour Marie Richeux.
Un tombeau pour Dustan apparu aux éditions Robert Laffont. Soyez le bienvenu dans le Book Club. Merci. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Thomas Clair.
Bonjour.
Les œuvres complètes sont en cours de publication. Long et beau travail aux éditions POL. Vous préfacez, vous annotez ces éditions. On parlera de ce vaste travail déjà paru, le premier et le second tome. Bienvenue Thomas Clair dans le Book Club. Alors il y a dans cette dimension du tombeau pour Dustan, lettre d'amour posthume paru aux éditions Robert Laffont, une dimension clairement biographique. La vôtre, Christophe Beau, vous signez là une sorte d'autoportrait aussi en creux sur le chemin qu'a pris votre existence, peut-être au moment du tournant que lui a impulsé consciemment ou inconsciemment cette rencontre amoureuse puissante avec Guillaume Dustan, qui n'était pas Guillaume Dustan à l'époque. Mais vous partez de l'inscription sur sa pierre tombale, et je la cite « J'ai toujours été pour tout être ». Ce qui peut-être place le début de votre récit et de notre émission du côté de la totalité, peut-être aussi de la dépense, de l'exubérance, en tout cas du tout. Qu'est-ce que ça pourrait nous raconter d'un point de vue biographique de William Baranes ?
Alors effectivement, c'est une très belle épitaphe sur son tombeau. Je pense que le mot le plus important, c'est tout, comme vous venez de le dire, Marie. Et mon livre porte sur une période relativement limitée de notre vie ensemble, de l'histoire d'amour qu'on a vécue. Mais ce que j'ai constaté en fréquentant William Baranes, et non pas Guillaume Dustan, effectivement, c'est que c'est un être qui était pluriel, qui a connu plusieurs vies en réalité. Avant que je le connaisse, il a été un étudiant brillant, relativement sage, très conventionnel, issu d'un milieu bourgeois. Bon. Ensuite, il est devenu un magistrat, après avoir fait des belles études, être entré dans la fonction publique, etc.
Vous dites sans éclat, mais respecté, dans sa carrière
de
magistrat.
Oui, parce que alors, il avait commencé un tout petit peu déjà à décaler sur sa trajectoire pendant ses études, justement, parce qu'il y a eu cet élément central dans sa vie qui a été la découverte de sa séropositivité. Et ça, il faut se rappeler qu'à l'époque, l'espérance de vie pour les gens qui le découvraient était de 3 à 5 ans, et ça a été un élément majeur pour lui, un choc terrible. Et donc, il a commencé un peu sa voie de traverse, si j'ose dire, vers autre chose. Ça l'a amené ensuite à s'éloigner de sa vie professionnelle et à devenir écrivain, puis éditeur. Et puis, à un moment donné où les choses se sont peut-être moins bien passées pour lui, une phase un peu moins brillante, un petit peu moins solaire, il est revenu dans la fonction publique, dans ces dernières années qui ont été assez sombres en réalité. Bon. Et donc, si on fait un regard un peu panoramique sur son parcours, il aura été à la fois bourgeois et drogué, magistrat et un penseur radical. Il a été vraiment extrêmement divers, extrêmement éclaté aussi. Mais j'y vois plutôt une forme de diversité positive. Et donc, effectivement, son épitaphe est tout à fait justifiée.
Est-ce qu'il y a aussi dans l'idée de « j'ai toujours été pour tout être », C'est vraiment une trace sur laquelle on pourrait penser très très longtemps. L'idée qu'on pourrait être aussi mort que vivant, parce que j'ai toujours été, ça pourrait presque être dire je suis toujours déjà mort. Il y a une telle dimension quand même de la dissolution de soi, quelles qu'en soient les formes que ça prend, littéraire, physique, dans la consommation, dans la manière aussi dont il apparaît médiatiquement, parce que ça devient une figure médiatique, en tout cas sur un certain temps, à certains endroits assez controversés, quelque chose qui contient déjà la mort.
Oui, sans doute. Je pense qu'avant même d'être séropositif, il avait une très forte conscience humaine de la finitude et de c'est un philosophe au fond. Hein. On peut. Vous avez intitulé votre émission "Poète maudit" point d'interrogation. C'est vrai qu'il a un côté poète par sa écriture, mais je pense que fondamentalement, c'est quelqu'un qui était philosophe par rapport à la vie et qui a tout de suite pris conscience de la finitude et de ce que ça impliquait pour lui. Et je pense aussi qu'il y avait l'envie d'être de tout être, mais de tout, on vient de le dire, donc la diversité, mais être au sens vraiment occuper, investir en quelque sorte tous les champs qu'il a abordés. Moi, ça me fascinait. J'étais à l'époque un petit provincial qui venait à Paris.
Donc on parle de quelle époque
rencontré. Alors, c'est les années 87-89, en gros, à l'époque où il avait 21-22 ans et moi un an de moins. Et j'étais fasciné par sa volonté pratique de maîtriser les choses qu'il faisait. Dans tous les aspects de la vie, y compris les plus matériels. Bon, je raconte quelques bribes dans mon livre. Et ça, pour moi, je le rattache à une volonté de vraiment maîtriser les choses, maîtriser sa vie, peut-être aussi maîtriser sa mort. Et donc, effectivement, étant confronté au grand néant, au grand vide, vouloir en quelque sorte être dans cette espèce d'existence absolue pendant le temps qui lui était imparti.
Vous notez ses études et sa première carrière, son premier moment. Il y avait aussi peut-être quelque chose de l'excellence. Vous racontez que dans votre rencontre, il vous teste au départ, il vous dit « Toi, tu lis quoi ?» Bon, pour immédiatement se fiche un petit peu de vous, et puis entamer aussi un parcours d'initiation qui n'aura pas que la dimension amoureuse et sexuelle, mais qui aura aussi une dimension intellectuelle et littéraire. Quelle place tenait ce rapport à l'excellence quasiment française ? Parce que, voilà, c'est l'ENA, c'est Henri IV, et puis vous racontez que son père, c'est les bouquins partout, le Tweed, la psychiatrie, enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui va défoncer ensuite, mais qui est présent.
C'est ça qui est amusant chez lui, c'est qu'il était à la fois caricatural d'un certain élitisme à la française, par ses origines familiales, par son parcours scolaire. Il a quand même eu pas moins de 2 premiers prix au concours général, c'est pas tout à fait anodin, et commun, voilà. Faire une hippocagne, passer le concours l'ENA, etc. Donc effectivement, et d'ailleurs, il le dit lui-même dans ses livres, il avait une ambition très bourgeoise au départ, très ambitieux. Il voulait faire un beau mariage, comme il le dit, avec, si possible avec une particule et un héritage en face. Bon. Donc il y avait à la fois une ambition très très conventionnelle, et ensuite, il a fait tout exploser, effectivement. Donc, c'est ça, ce grand paradoxe, c'est d'avoir été à la fois presque une caricature de l'esprit français, de cette élite qu'on connaît, bon, voilà, et en même temps, dans l'excès aussi, inverse, de l'explosion et de tout envoyer balader, si j'ose dire.
Comment vous l'entendez, Thomas Clair, cette épitaphe « J'ai toujours été pour tout être » Qu'est-ce que ça nous permet de dire?
Oui, c'est magnifique. Moi, je pense à la phrase, puisqu'on parlait de philosophie et peut-être d'existentialisme de Simone de Beauvoir, sa très belle devise « Je veux tout de la vie ». Et je pense que peut-être Dustan, qui avait certainement lu Beauvoir, a peut-être remodelé un petit peu cette phrase qui est très touchante parce qu'elle est immédiatement annonciatrice d'un franchissement des limites, c'est-à-dire d'une impossibilité. En fait, c'est une phrase qui est très belle en ce sens qu'elle est l'impossible.
Et donc, c'est terrible.
Oui, je sais, mais bon, on se heurte quand même un peu à l'impossible, au réel, disait Lacan. Donc voilà, je veux tout de la vie, j'ai toujours été pour tout être. Je retrouve bien là l'espèce d'ambition très très forte de Dustan. On parlait de son ambition à l'instant. J'ai la chance actuellement de travailler à l'IMEC où je prépare une exposition au mois de mai qui s'intitulera Autoportrait, dans laquelle il y aura des archives de Dustan. Et j'ai trouvé une très belle archive de Dustan, un petit texte qu'il a écrit à 12 ou 13 ans à la plume et qui s'appelle L'ascension sociale de la famille Baranès.
Mais c'est quand même très intéressant parce que vous racontez Christophe Beau qu'il avait une chevalière et que cette chevalière c'était pas une chevalière dont il avait hérité des grandes lignées de sa famille mais qu'il avait dessiné lui-même les armoires, qu'il se presque il se plaçait dans un certain une filiation mais mi-imaginaire, mi-fantasmée. Ça raconte quoi de l'endroit où il se situait? Je pense qu'il faut dire aussi qui étaient un tout petit peu ses parents, Thomas Clerc, peut-être.
Oui, enfin, il y a...
Parce que l'ambition de la famille Baranès, c'est pas rien.
Non, c'est pas rien du tout. Il y a aussi ce côté juif séfarade.
Et Ashkenaz.
Et Ashkenaz, effectivement. Il est servi des deux côtés, dit-il, je crois, quand il fait son...
Du côté de la judéité,
voilà,
en effet.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est très important hein, pour lui. C'est sa première minorité, finalement. Sa première minorité à travers laquelle il se définit et à travers laquelle il voit qu'il y a, évidemment, qu'il n'est pas exactement comme les autres. Et donc, dans ce... il écrit une espèce de CV assez fantaisiste, très drôle, dans Génie divin, oui, dans lequel, justement, il montre que cette dimension de minorité et d'exclusion en partie de la société française, eh bien, lui donne une force énorme pour être le premier, le meilleur. Mmh. Et littérairement, ça va être très important pour lui, cette idée aussi.
Une force ou un impératif, non ?
Oui, mais je crois que c'est pas simplement un impératif sur Moïc, c'est quelque chose qu'il a quand même complètement, qu'il a véritablement poussé à écrire aussi, vouloir devenir l'écrivain homosexuel marquant de sa génération et d'apporter la littérature homosexuelle quelque chose qui n'existait pas avant lui, hein, quand il fait ce très beau tableau dans Nicolas Page et dans Génie divin, la littérature homosexuelle. Il dit au fond, les écrivains homosexuels, je les admirais, mais ils ne correspondaient pas exactement à ce que je veux montrer moi, c'est-à-dire cette espèce justement de totalité, d'énergie dynamique.
Et on va y venir évidemment à cette dimension-là, Thomas Clerc, mais pour revenir à cette question du tout, vous racontez dans votre livre, Christophe Beau, que lorsque vous vous rendez à son enterrement, donc vous vivez l'annonce de sa mort comme un véritable choc, c'est-à-dire que cette histoire qui est à la fois derrière vous, le temps a passé, en fait elle s'impose par un présent très très puissant, et puis elle vous révèle ou vous réveille à l'endroit où vous vous trouvez à ce moment-là, même si vous écrivez ce livre 20 ans après sa mort. Ouais. Vous dites, j'ai l'impression d'assister à l'enterrement de Guillaume Dustan et pas à celui de William Baranès. Et on commence cette émission en parlant du tout et de l'aspiration à la totalité. Or, vous montrez aussi dans votre livre qu'il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup d'éclatements identitaires. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites qui on enterre ce jour-là ?
Je crois qu'il y a effectivement deux grandes phases dans sa vie, et peut-être que William est
Baranès,
mort.
Donc.
William Baranès est mort quelque part au début des années 90, en apprenant sa séropositivité, et qu'il a créé un nouveau personnage ensuite, un personnage un peu fou, un peu déséquilibré, un peu radical, etc., qui était l'écrivain, pas seulement l'écrivain d'ailleurs, qui était aussi le personnage qu'on a vu en plateau télé, avec ses perruques, avec ses outrances, etc., qui faisait partie un peu d'un tout, encore une fois, qu'il proposait à voir, qu'il donnait à voir. Bon. Et alors, peut-être que j'ai un peu forcé le trait, parce qu'il y avait aussi des représentants de sa famille, bien évidemment, et de ses amis d'avant, donc c'est aussi un peu William, quand même, qui a été enterré. Mais au fond, William était déjà mort depuis un certain temps, je pense. Et donc, ce qui était donné à voir ce jour-là au cimetière du Montparnasse, c'était peut-être un peu le tout Paris des lettres qui s'était retrouvé à cette occasion. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur la chevalière un instant.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est très typique de ce qu'il était et de son fonctionnement intellectuel. À la fois, il avait fait faire cette chevalière lui-même en dessinant les armoiries, alors qu'il n'était pas du tout d'une grande lignée, effectivement, aristocratique. Bon. Donc, il y avait ce désir d'assimilation à quelque chose d'autre, à une sorte de noblesse fantasmée, on peut dire. Et en même temps, la plupart des gens qui auraient fait ça l'auraient caché. Et lui, il me l'a dit. Il me l'a révélé. Un peu comme on soulève le voile d'une supercherie pour montrer, tu as vu, en fait, je suis très fort.
C'est une bonne
blague. C'est une bonne blague et je suis capable de le faire. Voilà. Mmh. Donc il y avait à la fois, et ça on retrouve le tout, la volonté de faire des choses et puis de montrer le mécanisme d'horlogerie derrière, de donner à voir comment il l'avait fait, pour montrer un peu son talent aussi. Donc il y a tout ça dans cette chevalière, en fait.
Ça me fait penser à deux choses, Thomas Clerc. L'idée que... Peut-être il y a un sens de l'humour assez peu commenté dans l'œuvre de Guillaume Dustan, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de moments très drôles, très vifs dans l'intelligence et qui se traduisent par de l'humour. Et l'autre chose aussi, c'est que cette chevalière, ce rapport à l'ENA, cette grande société et tout, se transforme dans une pensée politique qui vient radicalement couper avec cet héritage de la grande France et de la grande bourgeoisie, mais pas couper avec l'ambition politique. Donc vous dites dans votre préface que un des malentendus entendu que vous aimeriez bien dissiper à propos de la réception de l'œuvre de Guillaume Dustan, c'est notamment le fait qu'on ait amputé sa dimension politique. Donc on aurait amputé à la fois peut-être la dimension politique et puis un peu aussi de sa dimension de la drôlerie ou du sens de l'humour.
Et oui, bon, c'est bien que vous associez là deux termes qui ne vont pas généralement ensemble, la politique et l'humour. Or, lui, les...
Et il faudrait pourtant.
Ben oui, je pense que oui.
Tout en ce moment.
Voilà. Voilà. Et donc lui, effectivement, il associe cette double dimension. Ben, l'humour, il est constant dans... Il traverse constamment son œuvre, hein, lorsqu'il se... au sens où il est assez critique vis-à-vis de lui-même et de ses propres outrances, hein, comme quand, par exemple, il se définit comme « je suis une Marilyn Monroe moche », par exemple. Bon, avec ce genre de choses, bon, je trouve ça assez drôle. C'est cette manière de se déprécier, mais avec justement ce côté un peu humour juif, on pourrait dire, qu'il s'applique à lui-même. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il est en même temps, effectivement, nourri par une ambition politique, même de militant, on pourrait dire. Or, généralement, le militant est à milieu de l'humour.
Comme vous y êtes.
Ah, quand même.
Ça vous appartient.
Voilà.
Gros bisou à tous nos amis militants et militantes.
Globalement, quand même, il y a une phrase très belle de Georges Braque qui dit « Le militant est un homme masqué ». C'est-à-dire, le militant ne se permet pas, au fond, de prendre une distance par rapport à son propre discours. Dustan, c'est exactement le contraire. Dustan, c'est quelqu'un qui, ben, justement, cette anecdote de la chevalière le dit bien, il veut se créer lui-même. Mais il veut se créer lui-même de manière un petit peu dérisoire, finalement, de même qu'il s'est forgé un nom.
Mais justement, étrange. Peut-être on peut dire deux mots. Voilà, c'est quoi ce Guillaume Dustan?
Donc déjà, c'est quand même un pseudonyme. Hein, c'est une vieille tradition littéraire de la recréation de soi par le pseudonyme. Mais passer de William à Guillaume, donc d'une certaine façon, se franciser, mais avec le rapport à Shakespeare aussi d'une certaine manière. Enfin, William Guillaume. Et puis Dustan qui vient de Dunstan, hein, c'est un moine ascétique. C'est un nom. Il va ôter le N de Dunstan pour pouvoir faire Dustan et donc se mettre à côté de Marguerite Duras, qui est sa grande idole littéraire. Ça, c'est absolument magnifique. Cette idée qu'il choisit en partie son nom pour être dans les bibliothèques, dans toutes les bonnes bibliothèques, juste après
celle qu'il a fait. L'ambition dont vous parlez tout à l'heure.
Voilà. Une ambition, mais en même temps, c'est quelque chose que je n'aime. Ça, par exemple, c'est une création typiquement, je trouve, littéraire et très belle.
Presque Oulipo.
Pourtant, il n'aimait pas l'Oulipo parce que pour lui, c'était du formalisme et bon, c'était pas du tout sa cam.
Une action poétique.
Complètement. Mais il y a une dimension poétique chez Dustan. Bien sûr, certes philosophique, mais enfin, c'est un philosophe comme je les aime, c'est-à-dire précisément un philosophe qui part du concret, du corps, du vécu, enfin, et de tout ce qu'on peut appeler le bas corporel et le bas matériel, c'est-à-dire ce qui fait le quotidien de nos existences. Hein. Il y a quand même peu d'écrivains qui décrivent, je ne sais pas moi, la façon, il est l'un des premiers par exemple à décrire la façon dont il fait les courses dans une supérette. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est quand même introduire ce topos-là dans la littérature.
C'est pour ça qu'il aime tant la vie matérielle de Marguerite Duras.
Absolument. Il dit très justement, j'aime beaucoup Duras parce qu'elle a permis, à beaucoup d'employés d'écrire des livres. Alors c'est une phrase qui a l'air un peu aristocratique comme ça, mais en même temps c'est assez drôle parce que lui-même est un écrivain qui, je crois, peut être apprécié par des gens qui ne lisent pas beaucoup. Et ça, c'est assez fort. C'est un écrivain qui peut révéler finalement des gens à la littérature et à la lecture. Qui en lisant Dustan, on se dira, ah bon, c'est ça la littérature. J'ai souvent vu des gens jeunes ou des gens qui ne lisaient pas beaucoup, et bien en lisant Dustan, tout à coup, ils ont été révélés. Enfin, la littérature leur a été révélée d'une autre manière.
Parce qu'il y a quelque chose, on l'entendra peut-être tout à l'heure dans la lecture des textes, qui pourrait avoir une apparence très simple dans les mots, dans l'agencement des mots, dans la rythmique, dans la manière dont les choses font retour. C'est loin de la grande sophistication dont on parlait et qui serait presque l'endroit d'où il vient et qui n'est pas tout à fait l'endroit où il écrit. Christophe Beau, il y a quelque chose dans le livre que vous écrivez, Un tombeau pour Dustan, qui dit d'une manière bouleversante la façon dont certains êtres dans notre vie, y compris quand ils y passent pour pas beaucoup de temps, nous impriment quelque chose et modifient, ou en sourdine, ou de manière éclatante, ou avec quelques, on va dire, échos même tardifs, quelque chose de déterminant. Alors, vous rentrez dans les détails dans votre livre à vous, mais pourquoi est-ce que Dustan ou William Baranes est de ce genre de trempe d'individus? Parce qu'on a l'impression que c'est pas que vous dont il bouscule l'existence. C'est qu'en gros, toutes les personnes qui ont été sur son chemin et qui ont peut-être vécu une relation d'intimité comme vous l'avez vécu avec lui, s'en sont trouvées assez clairement modifiées.
Alors, c'est difficile de répondre à votre question parce que je peux parler pour moi-même.
Faites-le.
En disant ce qu'il m'a apporté.
En bien et en mal, d'ailleurs.
En bien et en mal, oui. Il avait quelque chose d'indéniablement solaire, charismatique. Bon. Je rejoins un petit peu ce que vient de dire Thomas sur le fait de se mettre à hauteur d'eux lorsqu'on est d'un certain milieu et qu'on va vers un autre. Et je crois qu'il a fait ce pas envers moi. Je venais de ma petite province, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je faisais des études de commerce qui étaient pour lui vraiment le summum de la médiocrité. Hein, donc, bon.
Et de l'ennui.
Et de l'ennui, voilà. Il m'a tendu la main et il a eu une espèce d'attitude pédagogique. Alors, à la fois de manière bienveillante, en m'apprenant des choses, dans beaucoup de domaines, hein, et en même temps, d'une façon parfois un peu coercitive, en m'engueulant, enfin, j'en donne quelques exemples dans le livre, en étant un peu austère, un peu sévère, un peu, voilà, dans un style de commandement, parfois, bon. Et à l'âge qu'on avait tous les deux, en réalité, on avait un an de différence, mais moi, j'écris plutôt qu'on avait 10 ans de différence d'âge en termes de maturité. Bon. Et peut-être qu'à l'âge où ça s'est passé pour moi, on est très malléable, et donc on a peut-être parfois l'envie de se laisser comme ça emporter, dominer, guider par quelqu'un. Et donc, oui, je crois que à ce moment-là de ma vie, j'ai dû lâcher prise et me laisser en quelque sorte emmener par cet être que je trouvais tellement solaire, attrayant et stimulant. Bon. Après, il y a un après.
J'aime bien ce petit moment. Sachez que vous tournez la tête, pour nos auditeurs. Vous penchez un petit peu la tête. Bah oui.
Après, oui, on peut prendre du recul et peut-être avoir des regrets de s'être laissé trop influencer ou d'être allé sur des voies qu'on n'aurait pas spontanément emprunté s'il n'y avait pas eu cette influence. Donc oui, c'est un bilan qui est un peu mixé entre des sentiments de grande reconnaissance et puis parfois des sentiments de rancœur que j'essaie d'exprimer dans le livre. Au global, je dirais que c'est plutôt quand même de la reconnaissance, évidemment.
Il y a une forme de tendresse, en effet, alors qu'on traverse des bonnes grosses tempêtes dans votre livre. Ouais. Y compris physiquement. Oui. C'est-à-dire que la sexualité et les situations sexuelles ont une telle importance dans la pensée et dans la littérature de Guillaume Dustan. Donc, vous racontez des moments de sexualité. Et évidemment, ce sont des moments qui forgent une relation où la violence a sa part. Violence symbolique, de domination, violence concrète. Violence qui laisse des traces, mais là aussi, elle laisse des traces ambivalentes. Mmh. Ouais.
Voilà. Oui, j'ai pas du tout cherché à être dans un registre qui soit le sien, soit la sexualité, parce que, bon, il avait tellement emmené le sujet assez loin que voilà. mais en même temps, donc j'ai pas du tout cherché à imiter cet aspect-là de son œuvre, mais en même temps, je trouvais que parler de ma relation avec Dustan aurait été totalement incomplet et insincère s'il n'y avait pas eu cette dimension charnelle. Donc c'est pour ça que je l'ai fait.
Ouais. Thomas Claire, sur l'idée qu'il y a des êtres un peu... C'est bizarre de dire ça, peut-être un peu romantiser l'histoire, mais d'exception, même s'il est d'une grande ambivalence, mais est-ce que ça convient à Guillaume Dustan de dire ça ?
Oui, à un moment donné, il écrit dans Génie divin, je crois que très peu de gens, que le monde peut être changé par très peu de gens. Il y a cette idée toujours, hein, cette notion.
Mais là, c'est plus prophétique.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il est vraiment guidé par un idéal pédagogique. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans le livre de Christophe Beau, d'ailleurs, effectivement, cette façon qu'il a de manière assez paternaliste, on pourrait dire, pour un homme de votre âge, enfin, de même âge, faire une éducation.
Ça pourrait paraître très bourgeois, justement.
Oui. Mais alors, quand il l'applique, par exemple, au sadomasochisme, moi, je dirais que c'est grâce à lui que j'ai compris, d'une certaine façon, que le SM était une pédagogie, en réalité. Était quelque chose qui était de l'ordre d'un jeu, et donc d'une série de codes à apprendre, que la sexualité a une dimension pédagogique. Ça, il le montre très bien. C'est pas seulement du tout... Ça serait une erreur de penser que, la sexualité, chez Dustan, est une pure débauche. C'est autre chose. C'est aussi un rapport de compréhension et de... Par exemple, j'aime beaucoup l'idée qu'il dit qu'on peut faire des progrès et des progrès dans la baise, quoi. En gros, il dit ça comme ça.
Les progrès dans la baise, pas que du côté du plaisir sexuel. On a vraiment l'impression que c'est un territoire de pensée, un territoire politique la sexualité et la rencontre des corps.
Absolument, parce qu'elle va ouvrir, à une autre dimension et il part du principe, au fond, de manière très, très Wilhelm Reich. Moi, je pense qu'il est plutôt du côté de Reich que de Foucault. C'est-à-dire, il est plutôt de l'idée que finalement, les êtres épanouis sexuellement sont bons pour la société, vont finalement aller dans le sens de l'intérêt général de la société. C'est une idée idée très 68 art dans un sens, mais assez belle et assez intéressante. Voilà, c'est cette idée que on lui renvoie son côté un petit peu destroy, mais il y a aussi qui est incontestablement, il y a aussi une autodestruction bien sûr chez Dustin, mais il y a quand même cet idéal, je dirais, pédagogique qui passe par le corps et par la réunion en fait entre le corps et l'esprit, et entre le corps, l'intime et le politique.
Quand vous dites qu'il est plus Reich que Foucault, on écoutait Foucault, peut-être on rentrera tout à l'heure un peu plus dans les détails de la dimension foucaldienne de sa pensée, mais ce serait quoi son côté Foucault?
Son côté Foucault, ça serait quand même
on peut vraiment dire ça que sur France Culture, ce serait quoi son côté Foucault?
C'est quand même l'intérêt pour les rapports de pouvoir, c'est-à-dire la fascination pour la question du pouvoir.
La fascination critique.
Pour moi, chez Foucault, elle est ambiguë, cette fascination. Je le dis un peu dans ma préface. Chez Dustin, elle est aussi ambiguë, mais elle est quand même au service d'une amélioration globale de la société, c'est-à-dire de bien comprendre que finalement la société va pouvoir s'améliorer si on connaît les codes de cette société. Car pouvoir les connaître, donc ça serait peut-être le côté un peu foucaldien, si on veut. C'est-à-dire le savoir, c'est le pouvoir. Et donc, autrement dit, il faut mettre le savoir à la portée de tous. Et notamment que ce soit le savoir sexuel, que ce soit le savoir sur la maladie, que ce soit le savoir sur les codes culturels, de la littérature, sur cette idée que le savoir doit être partagé, doit être partageable. Il y a une dimension, on pourrait dire, populaire aussi chez Dustin.
Mais il le dit d'ailleurs, il s'en réclame. Hein.
Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, bien sûr, il pense que la musique, que les styles de vie, que la culture, tout cela forme le véritable bouleversement social. Il ne croit pas trop, finalement, au changement, je dirais, par les partis, etc., d'où sa critique très forte du Parti Socialiste, etc. Il pense que le changement va se faire par les styles de vie, par les modes de vie. En ce sens, il a un côté très libéral, c'est-à-dire il croit que les styles de vie peuvent être changés, et que c'est en changeant au niveau de l'individu, et donc des pratiques de vie, que la société elle-même va être emportée par ce changement.
Quand vous dites connaître les codes d'une société pour pouvoir la modifier, en avoir conscience, est-ce que les études qu'il fait, Christophe Bou, et sa conscience d'un appareil d'État, par exemple, sa connaissance des rouages d'un appareil d'État, peut jouer dans la littérature? Ça peut paraître bizarre comme question, mais qu'il produit ensuite.
Oui, je crois, parce que ça a un lien avec ce que vient de dire Thomas sur le rapport foucaldien. Il est effectivement fasciné par le pouvoir, les mécanismes de pouvoir, et notamment les pouvoirs sur le corps, la prise en charge des corps. Et donc, on va retrouver un point de jonction, par exemple, là-dessus, dans sa littérature, sur la question du barebacking.
Absolument, et l'usage du préservatif ou pas.
L'usage du préservatif, voilà, donc... pour lui et pour ses semblables, il estimait que c'était approprié de ne pas se protéger sans mettre quiconque en danger. Pour les associations...
En pleine épidémie SIDA.
En pleine épidémie SIDA, mais en pleine conscience...
De sa responsabilité, dit-il.
À l'intérieur du club, comme il l'appelle, des séropositifs. Et évidemment, pour les autres, à l'époque, défenseurs du sexe sans risque, et qui étaient des militants au sens noble du terme pour protéger la population, une incompréhension de ce discours-là, et donc
la volonté... Parce que lui, comme étant une très grande mise en danger...
Mise en danger, et peut-être même on lui prêtait la volonté de contaminer, ce qui n'était évidemment pas le cas. Mais donc voilà, un débat du coup intellectuel sur la notion de prise en charge des corps par la société, jusqu'où les prescriptions de la société peuvent aller... on a retrouvé ça d'ailleurs, il n'a pas vécu la période du Covid.
De la pandémie.
De la pandémie, ça aurait été intéressant d'avoir son opinion.
Absolument, parce que par exemple, si, sans passer trop de temps sur cette question qui a été fondamentale dans le parcours de Guillaume Dustin, mais en effet, et pour rester sur la question de sa lecture de Foucault, ça voudrait dire qu'au moment où on dit, en fait, il faut mettre des capotes si on veut préserver la vie autour de soi, il considère qu'il y a un contrôle moral du vécu sexuel des corps qui, sous couvert de protection sanitaire, se transmettrait de cette manière-là, Thomas Clair. Est-ce que c'est bien résumé ?
Oui, c'est très bien résumé. Il a tendance à anticiper, il a toujours une sorte de coup d'avance. Sorte de coup d'avance qui, évidemment, est ambigu. Moi, je suis assez partagé sur cette question et puis je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais effectivement, il a cette idée que...
Ça pousse très loin quand même, l'idée. Ça va loin, non ?
Oui. C'est son côté libéral. C'est son côté libéral, comme Foucault, et c'est pour ça que ma petite critique de Foucault, Foucault est un libéral en ce sens qu'il croit quand même à la question de la prise de risque, si vous voulez, que la prise de risque fait partie de la société, de l'individu, et ensuite ça a eu des déformations, et Dustin, il a cette dimension, c'est pour ça évidemment qu'il a été aussi critiqué d'un point de vue intellectuel et idéologique par le camp auquel on pourrait a priori le rattacher, qui est un camp progressiste.
On va continuer de parler ensemble de Guillaume Dustan et de son œuvre littéraire juste après ce morceau de 1991 signé Latour, un musicien, DJ et homme de radio américain. People are still having sex. Guillaume Dustan le donne en titre de l'un des chapitres de son premier roman, Dans ma chambre, paru en 1996.
Are still having sex. All the denouncement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorn them, but people are still having sex and nothing seems to stop them.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Appelez ça littérature gay, c'est une machine de guerre.
Oui.
Ok. Parce que si j'appelle ça juste littérature, c'est genre, ok, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, on reprend le dîner bourgeois. Et on est tous d'accord que la littérature, c'est top. Donc moi, je dis pas ça. Moi, je dis littérature gay et je me roule par terre. Et je dis aux gens, vous vous faites pas assez bouffer le cul et vous prenez pas assez de cocaïne. Mmh. Et comme ça, ils réfléchissent deux secondes sur le désert de leur vie. Mmh. Hein ? Voilà.
La littérature gay est une littérature nationale des nouvelles nations, des nations opprimées, des nations sans État. Elle nous éclaire sur le rapport des forces politiques des groupes sociaux. Si les hétéros étaient minoritaires, leurs droits bafoués par des états contrôlés par les homos, on parlerait de littérature hétéro avec autant d'embarras qu'on parle de littérature homosexuelle. Ce n'est que parce que le monde est ce qu'il est, pour le moment, que la littérature est identifiée à la littérature hétéro. La littérature bourgeoise, française, est tellement calquée sur les valeurs aristocratiques de distinction qu'elle a le plus grand mal à créer une littérature moderne. Sainte Marguerite priait pour nos péchés. Il faut le dire clairement, la littérature moderne, c'est-à-dire échappée au patriarcat autoritariste, en France, date d'Uras. Avant, il n'y en a pas. C'est un extrait de Nicolas Page, un livre de Guillaume Dustan paru en 1999. Guillaume Dustan mort en 2005 et dont nous parlons aujourd'hui. En 99, il crée une collection de littérature homosexuelle appelée Le Rayon et c'est aux éditions Ballon. On parle de lui aujourd'hui à l'occasion de deux actualités éditoriales. Les œuvres complètes, peu à peu éditées, préfacées, annotées par vous, Thomas Clair, aux éditions POL et une lettre d'amour posthume parue aux éditions Robert Laffont et signée par vous, Christophe Beau. Pourquoi est-ce que c'est, on l'entendait aussi dans cette archive qu'on entendait juste avant, dans la musique, Pourquoi est-ce que ce n'est pas rien, au moment où il le formule, de distinguer une littérature gay, une littérature homosexuelle, Thomas Clair? Et pourquoi ça a participé bizarrement, peut-être au malentendu, lui c'est, là il parle en éditeur, hein, mais au malentendu de la réception de sa propre littérature?
Et c'est une question très complexe, évidemment, parce que il est dans une phase qu'on pourrait appeler un peu d'essentialisme stratégique. Mmh. C'est-à-dire, au fond, il dit, oui, il faut qu'il y ait une littérature gay, il faut qu'il y ait une littérature homosexuelle qui s'oppose à la littérature tout court. En ce sens que il va y avoir une nécessité, finalement, de faire intervenir le point de vue homosexuel à l'intérieur de la littérature et de ne pas considérer que la littérature est une entité abstraite, détaché complètement du corps de celui qui l'écrit. Et donc, de ce point de vue-là, il le dit bien dans l'archive, et il ne cesse de le dire dans le texte. C'est une nécessité de faire émerger cette question de la minorité au sein même de la littérature pour lui redonner ses couleurs.
Et quand vous dites stratégique, et un moment essentialiste stratégique, ça veut dire aussi que c'est peut-être pas une fin pour lui, c'est vraiment la machine de guerre.
Oui, c'est-à-dire, c'est stratégique, c'est une étape, parce que ensuite, évidemment, ce qu'on pourrait appeler peut-être des suiveurs, qui vont penser que finalement, il suffit de raconter ce qu'on est, de dire ce qu'on est exactement, et ça fera littérature. Et alors là, évidemment, là, je ne suis plus d'accord, et je pense que Dustan aurait finalement agréé aussi à l'idée que il est un écrivain homosexuel, certes, mais il est avant tout un écrivain. Et c'est le parti pris, évidemment, que j'ai pris dans mon édition. Mmh. Ce qui fait que, bien sûr, il défend des valeurs gays, homosexuelles, qui sont nécessaires parce qu'on est à un moment donné, quand même, on est au début, à la fin des années 90, il y a encore plein de combats à mener. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus du tout le même combat à mener. En ce sens que, justement, la question de l'identité a peut-être eu tendance aujourd'hui à polluer un peu trop la littérature, et j'aurais tendance, moi, à redevenir un peu le formaliste que je suis, finalement. C'est-à-dire de penser que la littérature est toujours un petit peu châtrée quand on la détermine par quelque chose, que ce soit littérature homosexuelle, littérature juive, littérature je sais pas quoi.
Oui, mais c'est là où vous retombez sur vos pieds, Thomas Clair, c'est que vous dites dans votre préface et dans vos notes, mais il y a à boire et à manger du point de vue formaliste dans la littérature de Guillaume Dustan, et elle n'est pas, cette littérature, réductible à son caractère gay ou homosexuel.
Absolument, absolument. Et il y a une force intrinsèque qui finalement va au-delà de la simple question de l'identité sexuelle. Ne serait-ce que par exemple le rapport, quand je pense tout simplement à la musique, là, puisqu'on a écouté cette musique, il y a une dimension très musicale, et là qui n'a plus rien à voir selon moi avec la question gay ou homosexuelle. Il y a une musicalité dans son écriture, un rythme, quelque chose qui fait de lui un véritable écrivain, et un côté aussi, un jeu sur les genres aussi, qui évidemment associe à la fois le personnel, le politique, les essais, tout à coup quand il introduit le journal intime de sa grand-mère, enfin des choses très 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 innovantes, très 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 novatrices, qui là dépassent complètement le cadre de l'identité sexuelle. Mais il a quand même besoin, à un moment donné, forcément, et c'est tout à fait logique.
Ça fait quelque chose à la littérature française.
Absolument. Voilà, il donne une gifle à la littérature française. En tant que la littérature française, il a raison, vit sur un déni de ses propres, de ses propres sujets, en quelque sorte. Et là, de ce point de vue-là, il est tout à fait bon que...
Dans une autre archive qu'on ne diffusera pas aujourd'hui, mais il s'engueule à l'antenne à quelqu'un qui lui dit « Mais arrêtez de me renvoyer tout le temps à un idéal universaliste. Depuis que je publie, depuis que j'écris, on me dit « Mais il faut écrire pour tout le monde. Pourquoi vous n'écrivez pas pour tout le monde ?» Et il dit « Mais je suis aussi universel que vous. » Guillaume Dustan, en passant par la position. On rembobine un tout petit peu, on est en 1996, c'est son entrée en littérature, ça s'appelle « Dans ma chambre », premier extrait.
Peut-être encore un dernier verre. Je retourne vers Stéphane, complètement dessoulé. Je lui dis « Ça m'a complètement dessoulé. » Il dit « Je vois. » Il m'a attendu, assis sur un capot de voiture, bien mignon dans son petit bomber vert. Je dis « On va au transfert ?» Finalement, on décide de ne ramener personne à la maison et de baiser juste tous les deux. On rentre. 4h, MC Solar à la radio. On entre dans le tunnel Concorde quai du Louvre. Le taxi Black et son pote Rebeu causent cool entre eux. Je dis à Stéphane que ça va, ça m'a fait trop, c'est tout. Terrier arrêtait net à l'entrée des shots, c'était la première fois qu'il me voyait avec son remplaçant. C'était pas prévu. 5h. Stéphane est au-dessus de moi. J'ai une de mes chevilles sur chacune de ses épaules. Il est prêt à entrer. Je dis « Je ne veux pas que tu me baises. » Il dit « Ah ouais ?» Je dis « Je veux que tu me fasses l'amour. » Il dit « Ok. » Les 15 premières minutes sont parfaites. Je trique comme un dingue sans me toucher. J'écarte les cuisses au maximum pour prendre ses 22 cm. Au bout d'un moment, ça devient tellement bien que ça me rappelle Quentin tellement il arrive à me baiser profond. Je trique à mort. On jouit quasiment ensemble. Il me dit après qu'il commence à comprendre que c'est qu'enculer. Je lui dis que sur les 1000 mecs avec qui j'ai baisé, il y en a 4 ou 5, enfin une dizaine, qui savent faire ce qu'il m'a fait. Il y a aussi Chas Douglas, mais c'est sur cassette uniquement. Justement, il est crédité dans une de celles que j'ai achetées avant-hier. Télécommande. J'espère seulement qu'en vrai, il n'est pas mort.
Un extrait de Dans ma chambre, paru en 1996, de Guillaume Dustan. Vous parliez de rythmique, vous parliez de musicalité. J'imagine que là, on l'a quand même entendu. Ce qu'on entend aussi, c'est la place de l'oralité, avec la dimension langagière et sexuelle un peu plus tard, Thomas Clair. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte-là, Dans ma chambre? Comment le placer aussi dans ce premier geste littéraire avec lequel il rentre en publication, Guillaume Dustan?
C'est un
dont vous dites que c'est de l'autobiopornographie.
Oui, je reprends un peu le terme d'ailleurs. Ouais. C'est lui qui le dit, mais bon, je crois que le terme est trop, enfin, est trop long par rapport à ce qu'on vient d'entendre, au sens où c'est un choc quand même. Moi, je trouve ça quand on entend ça, effectivement, la dimension orale est très importante. L'espèce
sentirait, il faut bien. Oui. Là, ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres textes où il n'y a pas des dialogues, mais là, c'est pris dans le texte.
Tout à fait, oui. Il y a une espèce d'immédiateté comme ça qui est très forte, très belle, et en ce sens qu'elle, il n'y a pas de mensonge dans la sensation, en fait, je trouve. C'est comme ça que je dirais les choses. Et c'est ça qui fait la force du texte. Il est au plus près de ce qui est vécu, et il le retraduit au fond avec une sensibilité, hein, finalement, avec une sensibilité au réel qui est l'une de ses grandes forces littéraires. Il n'y a pas d'enjolivement, où il n'y a pas d'emphase de la sexualité.
Et ça, c'est nouveau?
Je pense que c'est assez nouveau.
Parce que vous, vous dites que c'est parce qu'il ne désexualise pas l'homosexualité,
oui.
Parce qu'il expose la sexualité, parce qu'il dit les corps frontalement et qu'il se saisit de cette matière biographique. Mm-hmm. Totalement, on en revient au tout de tout à l'heure, Christophe Beau. Ça, c'est nouveau dans la littérature.
Et il me semble, en tout cas, que dans la littérature homosexuelle, il y avait déjà l'influence de Guibert, hein, par exemple, dans Les Chiens. Mais Les Chiens est plus un exercice sur Hervé Guibert, oui, sur le sadomasochisme. C'est un peu différent. Guibert a tendance un petit peu à esthétiser les choses, déjà, même si c'est un très bon écrivain aussi. Mais en tout cas, dans la littérature hétérosexuelle, la représentation du sexe, personnellement, ne me convient jamais parce que je ne sais pas, je la trouve très très perméable. Cliché. Et il est très difficile d'écrire une scène de sexe, en fait. C'est quand même quelque chose de très difficile. Et là, je trouve que, eh bien, il n'y a pas de mensonge. Alors, évidemment, moi, je suis à distance, au sens où ça n'est pas ma sexualité, mais je dirais que c'est une conception de la littérature que je trouve très forte, en ce sens qu'elle est, elle ne ment pas, voilà. Il y a quelque chose comme ça, je dirais.
On le réunit, ce texte-là, Dans ma chambre, en trilogie. Quels sont les autres textes?
Il y a Dans ma chambre et Plus fort que moi, le numéro 3, qui sont deux volumes très sexuels, dans lesquels, évidemment, il y a une passion de la sexualité qui est quand même très très forte chez Dustan aussi. Il faut dire que c'est un homme qui aime ça au fond et qui a besoin de le dire dans ses livres. Et puis il y a le plus beau à mon avis qui est entre les deux, qui est Je sors ce soir. Alors là, qui est beaucoup moins sexuel et qui est une sorte de description, à mon avis aussi inédite dans la littérature française, de la boîte de nuit, qui est l'un des endroits clés pour Dustan et pour toute la jeunesse à laquelle il s'adresse. Au-delà de son propre cercle. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'universalité de Dustan. C'est quand même étonnant qu'il ait fallu attendre Guillaume Dustan pour voir un livre entier se passer dans une boîte de nuit et essayer d'en décrire tous les aspects extrêmement sensibles, extrêmement les phénomènes, les micro-phénomènes, le côté finalement assez... le mélange de douceur et d'intensité qu'il y a dans la boîte de nuit, de haut et de bas, de dépenses du corps et puis tout à coup de besoin de se reposer. J'aime beaucoup cette idée qu'il met plusieurs pages blanches, par exemple. Petite pause.
Je vais aller chercher un petit verre d'eau.
Mais rien que ça, c'est une idée poétique. On parlait tout à l'heure de la poésie et du temps. Mais voilà. Je sors ce soir. Le titre est magnifique aussi. Il y a un engagement. Au fond, une chose très importante à dire aussi, c'est que la première trilogie, dans tous les titres, il y a la première personne. Ma chambre, je sors ce soir et plus fort que moi. Et ça, c'est vraiment l'idée que pour lui, c'est par une littérature de type autobiographique qu'il va pouvoir rénover les codes de la littérature bourgeoise.
Oui, mais de l'autobiographie dont il veut aussi rénover les codes. C'est-à-dire qu'il rentre vraiment avec un sacré coup de pied dans la porte.
Il y a vraiment, ça a été un choc, hein. Je pense pas seulement pour beaucoup de gens, hein. Bon, moi, je l'ai découvert un peu plus tard par Génie Divin, mais quand j'ai lu ces textes, j'ai vu qu'il y avait vraiment une intensité évidente, une écriture de l'intensité.
On va revenir sur Je sors ce soir et sur l'espace politique, là aussi, qui fait de la boîte de nuit, de la nuit, mais aussi de la dépense, peut-être pour évoquer aussi sa lecture de bataille et la manière dont il, à la fois, danse politiquement, fait l'amour politiquement, je sais pas, relationne politiquement, c'est tout le temps aussi dans des lieux où la porosité est très très grande entre l'intime et le politique et la pensée politique. Christophe Beau, on l'a dit, le moment de la relation d'intimité et de passion qu'il y a entre Guillaume Dustan, William Baranès et vous, il est terminé quand sort Dans ma chambre. Il est terminé dans les faits, ça veut pas dire qu'il est terminé dans les échos qu'il a dans votre existence. Qu'est-ce que ça vous fait de découvrir ce texte? Est-ce que vous le découvrez au moment où ça paraît?
Peut-être un peu après, parce que j'étais à l'étranger, enfin ça c'est un détail, mais alors pour moi en tant que lecteur, le principal choc ça a été de me retrouver dans un de ses livres, donc en tant qu'un des personnages parmi cent autres de son autofiction. C'était à la fois un mélange d'agacement, parce que faut dire les choses, il m'avait pas demandé mon avis, donc je suis pas sûr qu'il ait demandé son avis aux autres personnes qui sont concernées, et en même temps d'amusement, de fierté, voilà, de se dire que des petits événements anecdotiques de la vie qu'on a partagé ensemble se retrouvent dans un livre. Donc je dirais que très humblement, ça a peut-être dans mon cas changé ma perspective de lecteur, parce que forcément quand on se retrouve dans un texte, on est un petit peu obnubilé par cette présence qu'on n'a pas souhaité, voilà.
En même temps, vous êtes aussi un jeune homme homosexuel dans cette France-là.
Oui, mais
et donc vous aussi, vous n'avez jamais lu ça.
Non, j'ai jamais lu ça, et j'avais un peu peur des répercussions que ça pourrait avoir dans ma vie personnelle, professionnelle notamment, parce que il y a un petit côté outing forcé, même si j'étais pas dans le placard, mais vous voyez, quelque chose de non consenti de ma part. Oui, bien sûr, c'était très fort, mais en même temps, j'étais pas surpris parce que, comme le dit Thomas Clair, c'est quelqu'un dont j'avais vu l'intensité en vivant à ses côtés pendant quelques temps. Et donc cette intensité-là, je l'ai retrouvée dans son texte. Elle était pour moi évidente en quelque sorte. Et c'est ça que moi j'ai aimé dans son style, c'est que non seulement il y a cette véracité, cette sincérité que souligne à juste titre Thomas Clair, mais il y a aussi cette osmose avec lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas menti par rapport à lui-même non plus, ni par rapport à ses sensations, comme vous le dites, ni par rapport à lui-même. Et ça, je trouve ça très beau, de se livrer entièrement et se donner à voir et de s'utiliser soi-même finalement comme un corps politique, pour reprendre votre
absolument question. Mais c'est pas tout à fait la même chose, je précise encore ma question, Christophe Beau, d'avoir vécu l'intensité de William Baranès, Guillaume Dustan, et de vivre ce que ça produit en littérature. Est-ce que pour vous, en tant que lecteur ou en tant que jeune homme, à ce moment-là, ça fait quelque chose? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ment pas sur ses sensations. Pour revenir à ce qu'on peut-être, je sais pas, une politique de la lecture, puisqu'on parle des formes de vie, essayer de se demander qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pas que au milieu littéraire? Qu'est-ce que ça fait à des lecteurs de se trouver face à face avec ce genre de texte?
Oui, ça peut les ébranler, les questionner. Après, alors, il faut aussi dire peut-être quelque chose qui est pas très positif, mais ça crée aussi un peu de, ça fait parler, mais dans le sens un peu mondain du terme. Ah là là, parce qu'il faut pas oublier qu'à cette époque-là, il est encore magistrat. Il est en disponibilité, mais il fait encore partie de ces milieux administratifs, de la haute fonction publique, etc., auquel il a souhaité appartenir. Et donc, il y a un petit côté cancan aussi qui va se développer. Alors, pas forcément dans tous les milieux, dans le milieu qui était devenu le sien, militant, homosexuel, sans doute que ça n'a pas été la même réaction. Mais je peux témoigner que dans les milieux, entre guillemets, haute fonction publique, il y a eu parfois des petits ricanements, pas toujours très bienveillants, hein, c'est aussi la vie. Donc voilà, il y a plusieurs degrés de lecture, au fond, et oui, il y a une radicalité qui donne un coup de poing, ça c'est évident, et en même temps, pas toujours très bien reçu, mais c'est aussi, je pense, le fait des grandes œuvres de ne pas être comprises de leur vivant.
Ouais. On va écouter de nouveau sa voix, on est toujours en 1999, Archives de Guillaume Dustan.
Moi, je vais dire une banalité de plus, hein, c'est ma spécialité. Moi, j'écris pour me sauver la vie. Je veux dire, franchement, je crois que j'aurais pas écrit ces trucs-là. Je serais mort. Donc, que Marc Petit me dise que c'est pas bien, je m'enterre un peu. Parce qu'en écrivant ma vie, il m'est arrivé un tas de trucs
Bah, très positif pour moi. Par exemple, je le raconte dans le livre, je me suis rendu compte, dans les circonstances X, que je pensais que j'avais, au sens... Enfin, c'est lacanien un peu, quoi. Une araignée au plafond, vous voyez ? Et le jour où j'ai réalisé qu'il y a un moment où j'avais pensé, j'ai une araignée au plafond, donc dans ma tête, il y a plein de toiles d'araignées, et il fallait monter au grenier. Pour moi, c'était ça, la littérature, c'était en fait... Enfin, mes livres, c'était monter au grenier et dépoussiérer tout ça. Et ben, ce jour-là, j'ai arrêté de me dire que j'étais fou, parce que je pensais quand même que j'étais fou. Et c'est pas très agréable de penser « je suis fou ». Et je l'ai pensé pendant des années. Donc la littérature, pour moi, c'est devenir sain, dans les deux sens du terme. Je sais bien que c'est ridicule, mais c'est ce que je pense. Et je me suis beaucoup retrouvé dans le dernier livre de Paulo Coelho, que tout le monde méprise parce qu'il fait de la littérature populaire comme moi, qui s'appelle « Véronica décide de mourir ». Donc la fille, elle décide de mourir parce que c'est trop dur. Et puis finalement, elle meurt pas. Et elle comprend la folie. Et elle décide de vivre. Et moi, je pense que bah, ça doit être ça. C'est ça, une vie réussie. C'est comprendre la névrose. Et puis arrêter la projection de soi et sur soi. Et c'est pas facile.
Pour mes bouquins, j'ai fait ce que je faisais en dissert ou en traduction, en version anglaise, c'est-à-dire que je prenais pas de risques. Comme ça, j'arrivais à faire des super trucs, je prenais aucun risque. Quand j'étais pas sûre, je mettais rien. Comme ça, tu fais pas de conneries. Et je l'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire que je savais pas plein de trucs sur la psychologie humaine, sur je sais pas quoi. Je me suis pas aventurée là-dedans. Maintenant, je pense que je vais y aller, parce que je me suis mis à penser un peu cette année. Je me suis mis à écrire quand je pensais que j'allais mourir. C'était un tel boulot qu'à la limite, écrire était moins lourd que ma vie. Je rentre chez moi et je me mets à écrire ce qui m'est arrivé. Non, je suis pas négative comme mec, mais je souffre en permanence. C'est ma tendance. Je souffre pour moi. Je souffre pour les autres. Tu vois, si le mec à côté a un collier naze, je souffre pour lui. Je souffre comme si c'était à moi que ça arrivait. NB... Ça a changé depuis, pas la peine de venir m'emmerder. Mais parce que j'étais dans un rapport comme ça avec ma famille, surtout ma mère.
On a entendu une archive de 1999 de Guillaume Dustan, mais ici un extrait de Génie divin. C'est un texte qui est paru en 2000. On va très très vite, on est obligé d'arriver à ce nouveau virage, Thomas Clair. On était dans cette fameuse trilogie autobiopornographique 96-98 avec les trois textes qu'on a cités. Entre-temps, il y a Nicolas Page. Et en 2000, il y a Génie divin. Bon, ce serait très intéressant de tirer le fil de écrire, c'est devenir sain au sens pas fou, mais aussi sain au sens divin. Là, il y a une dimension un peu plus théorique quand même dans ces textes.
Oui, c'est-à-dire que quand il dit qu'il écrit pour sauver sa vie, ce qui est très... Bon, ben, très
oui, là, c'est pas théorique, c'est concret.
Non, oui, mais ensuite, finalement, il va appliquer cette idée à l'ensemble de la société. C'est ça qui est assez extraordinaire chez Dustan, c'est que quand on le lit, ben, on se dit qu'effectivement, la littérature sauve, la littérature peut sauver, et que lui-même, il se sauve de la séropositivité et du désespoir par la littérature. Mais ensuite, au lieu de la... Quand à une dimension égocentrique, narcissique, il va, et c'est ça qui est magnifique, l'ouvrir pour se livrer à une réflexion sur la société globale, sur la façon de libérer la société des entraves dans lesquelles elle est aliénée.
Par quel biais ?
Eh bien, justement, par un changement littéraire. Ça, c'est une chose très très belle, par exemple, c'est le fait qu'il change radicalement de style dans la première à la deuxième trilogie, et que ce soit Nicolas Page, le roman par lequel il découvre l'amour, et, c'est-à-dire finalement l'amour devient une autre réalité que la sexualité, enfin, disons, et puis Nicolas Page et Génie divin, qui sont des livres extrêmement différents des premiers, en ce sens que ce sont des livres énormes, ce sont des livres dans lesquels il se relâche en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il change le style froid et clinique de ses descriptions prescription sexuelle pour au contraire s'adresser à la société entière d'une façon extrêmement...
Mais en pensant à un trait d'union entre les deux ? Parce qu'on est dans un laps de temps extrêmement réduit.
Oui, mais justement, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on a l'impression que toute l'histoire, finalement, de son salut est comme un précipité, en quelque sorte. Et qu'il doit aller vite. Au fond, il y a une urgence chez lui qui explose vraiment dans Nicolas Page et dans Génie divin, et tout à coup, il se dit, au fond, que ce qu'il a vécu, enfin, son salut par l'écriture, il peut très bien concerne tout le monde, en fait. Non seulement sa propre communauté, mais même la société entière, qui, pour lui, c'est encore son côté Reich, est soumise à des éléments de répression, ce qui c'est évident dans le cas de la minorité homosexuelle, qui ne bénéficie pas, c'est le moins qu'on puisse dire à l'époque, des mêmes droits. Et donc, il va faire une sorte d'explosion autobiographique dans laquelle il mêle un peu tout, sa vie personnelle, ses interviews avec les journalistes, c'est la description de ses courses, la description de son amour avec Nicolas Page. Il va faire une sorte de mélange généralisé, de patchwork, on pourrait dire, qui donne à ces deux textes une force assez étonnante, d'autant plus, encore une fois, qu'elle est très différente de la radicalité clinique, assez froide, et il faut bien le dire, quand même assez effrayante, quand même, des premiers volumes aussi. Il y a quelque chose d'assez effrayant dans cette frontalité sexuelle, qui a pu, évidemment, décourager certains lecteurs. Il faut quand même aussi remettre les choses dans leur perspective. Dans la seconde partie, il va aussi inquiéter, on pourrait dire, le lecteur, mais plus au sens d'André Gide, au sens d'inquiéter la société. C'est-à-dire de lui dire, ben voilà, c'est une société qui, finalement, repose sur des cadres vermoulus, et notamment dans le traitement qu'elle met aux minorités, et qu'elle fait subir sur les minorités, et donc il va falloir faire exploser les cadres vermoulus de cette société.
Kim, auditrice du Book Club, nous avait envoyé une question, on va pas avoir le temps de l'écouter, mais elle disait qu'elle avait découvert, donc plutôt jeune lectrice, elle avait découvert Guillaume Dustan, pour lequel elle avait une grande tendresse, c'était une lecture qui était réconfortante, donc on peut trouver dans l'espèce de crudité et violence dont vous parlez, littéraire, Thomas Clerc, quelque chose qui, en tout cas, pour elle, était un compagnonnage doux, et elle vous demandait qu'est-ce que ça pourrait être un livre de Guillaume Dustan en 2025. Et nous, ça nous a aussi fait penser, Christophe Beau, au fait que vous êtes comme revenu à Dustan par un jeune étudiant qui vient vous voir en disant « Ah, mais moi aussi, je lis Dustan, et vous n'êtes pas un des personnages ». Donc, il y a quelque chose aussi de la jeunesse qui relit ou qui lit Dustan en ce moment. Très, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos, Christophe Beau ?
J'ai été confronté effectivement à ça, et je me suis rendu compte que, et c'est assez naturel au fond, que les jeunes qui lisent Dustan le lisent par rapport à leurs propres préoccupations d'aujourd'hui et pas du tout par rapport aux préoccupations qui ont pu être celles de Guillaume Dustan ou William Barnes lorsqu'il a écrit.
Et donc, il écrit il y a 30 ans, il meurt il y a 20 ans, donc il y a du temps qui a quand même passé.
Et donc c'est très troublant parce que à la fois ça montre qu'il y a une sorte de gisement d'idées, de concepts qui peuvent parler à la jeunesse d'aujourd'hui, et en même temps il y a une forme de trahison en quelque sorte, parce qu'on ne sait pas du tout si Guillaume Dustan aurait approuvé la façon dont ces textes sont perçus aujourd'hui, mais au fond ça aussi,
c'est l'histoire littéraire et l'histoire de la
réception. Voilà, c'est le lot de tout écrivain qui laisse son œuvre à la postérité.
On joue à un jeu qui est de chercher de la musique dans les textes, alors on l'a dit, il y a la musique de la boîte de nuit, il y a la musique qui donne ses titres au chapitre, on termine donc avec un extrait de son texte.
Essayez de prendre une bonne inspiration et une douce expiration. Parfait, super.
J'explique à ma doctoresse que mes T4 ont remonté. Quand je l'avais vu la dernière fois, ils étaient bas, mais j'étais hyper fatiguée. Je venais de déménager. J'avais quitté le mec avec qui j'étais pendant 5 ans. Il menaçait de me vitrioler. Je lui dis, le problème, c'est qu'avec le nouveau, je m'ennuie. Il ne me fascine pas. L'autre, il était fou et je l'aimais. C'est toujours le moins fou qui est fou du plus fou. Et le plus fou est fou de lui-même, apparemment. Il me dit qu'on ne peut pas y échapper. C'est comme ça. Soit on est raisonnable et on se met avec un normal et on s'ennuie, soit on se met avec un fou et il veut vous vitrioler et on s'amuse. C'est comme ça. Elle me demande où est Quentin maintenant. Il est parti ? Je dis, il est à 300 mètres. Elle me fait le check-up habituel, intéressée. Elle me demande des nouvelles et votre travail. Je lui parle de mon livre. Elle me demande, et c'est à quel sujet ? Je me marre. Je lui dis que c'est le même que celui de Modern Mesclin, dans Agrippine. Vous avez lu Agrippine ? Ils sont dans un café et il lui parle de ses projets. Et il y a entre autres son autobiographie érotique sur fond de Grégorian Rap. Et je lui dis que le sujet, c'est mon autobiographie érotique sur fond de Grégorian Rap. Parce que quand j'écris, j'écoute Dépêche Mode.
Thank you. flies right through me. Don't you understand? Oh, my little girl.
Merci beaucoup Christophe Beau.
Merci beaucoup
d'avoir été avec nous pour parler de Un tombeau pour Dustan, paru aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Thomas Clerc d'avoir été avec nous pour parler de votre édition des œuvres complètes chez POL. On suivra la suite. C'était évidemment trop court, mais j'espère qu'on vous a donné à toutes et à tous l'envie d'aller voir par vous-même au son. C'était Anthony Thomasson, à la réalisation Sam Bakiast. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement à Garance Roubieux aujourd'hui.